Les Barbeliviens sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Il y a des hommes qui baladent avec eux leur intelligence et leur simplicité comme un brin d'herbe entre les dents. À les écouter, la rhétorique devient limpide et le bon sens va de soi. Dans les livres d'école, on les appelle des philosophes. Cet après-midi, j'en tiens un. Je suis très heureux qu'il ait répondu à mon invitation, c'est pourquoi j'accueille avec joie et en votre nom sur l'antenne d'Europe 1, Monsieur Michel Onfray. Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien ?
Ça va.
Moi, ça va très bien parce qu'on va commencer par une chanson de votre choix, ô combien, Georges Brassens, Pauvre Martin. Et il y a de quoi causer. Ça a été créé en 1953. C'est en partie inspiré de l'œuvre de François Villon. Barbara reprendra même la chanson en 1969. Michel Onfray, pourquoi ce choix ?
Parce qu'au départ, il y a toujours les parents et c'est le portrait de mon père, qui était ouvrier agricole.
Ouais.
Et qui était très exactement le portrait de ce personnage. Travailleur, silencieux, calme, serein, puissant, qui a travaillé toute sa vie, qui d'une certaine manière a creusé le sillon des autres. Un jour, il en a creusé un pour lui. Il s'est allongé sans faire de bruit, en se cachant.
Ouais, comme on,
et voilà.
Comme on vivait généralement à la campagne. Et disons que c'est un métier qui a disparu. Par exemple, le mot journalier. Souvenez des journaliers
oui,
qui venaient travailler
oui,
dans les fermes
oui,
et tout.
Oui.
C'est un truc qu'on n'utilise plus jamais, de toute façon. Mais même le mot ouvrier que vous venez d'employer.
Bien sûr.
On dirait qu'il n'y a plus d'ouvriers.
Et surtout chez les hommes politiques, plus personne ne parle des ouvriers, plus personne ne parle aux ouvriers. Mais en même temps, je voudrais vous donner un peu tort, si vous permettez, parce que mon père a été.
Non, mais je permets tout.
Mon père a été ouvrier dans une ferme. Dans deux fermes, en fait. Dans une ferme, et puis le patron est parti à la guerre, il est rentré, et à ce moment-là, on a dit à mon père qu'on pouvait se passer de ses services. Il est allé dans une autre ferme, et il y a passé l'essentiel de sa vie. Et la famille Onfray est restée en relation avec la famille Beltoise. C'était la famille
de
laquelle...
Jean-Pierre
non, je pense pas que ce soit...
Non, il n'était pas de cette région-là, je pense. Il était de Lyon.
Et donc, il se fait que moi, j'ai connu le grand-père, j'ai connu le père, j'ai connu le fils et je connais les petits-enfants aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, quand ils moissonnent, ils ont un ordinateur qui leur permet de savoir ce qu'est le degré d'hygrométrie du blé quand ils passent dans la trémie, etc. Mais ce sont les mêmes paysans, d'une certaine manière. Ils ont le même amour de la terre, ils ont le même amour de la nature. Ils sont inscrits dans la nature.
Ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas les suspecter de travailler pour l'argent, ces gens-là.
Ça, c'est sûr. Parce que quand on fait le ratio, quand on regarde le temps passé, vous savez, il y a des journées de 12, 13 heures, là, tout de suite, avec la moisson. Et encore, c'est problématique parce qu'il pleut et que la moisson a été difficile à faire. Mais il ne faut pas compter vos heures, il ne faut pas compter vos jours, hein, ça, c'est sûr. Et donc, ce sont encore des gens qui pensaient comme pensait mon père, malgré la technique, la modernité, le moteur. Mon père a commencé avec les chevaux, le labour dans les champs. Mais ils sont restés quand même en relation directe, en prise directe avec la nature. Presque même avec le cosmos. C'est-à-dire, ce ne sont pas des écolos urbains, ce sont des gens qui ont compris ce qu'était la nature parce qu'ils ne se séparent pas de la nature, ils savent qu'ils sont un fragment de la nature.
C'est sûr. Est-ce que vous pensez aussi qu'il reste un fragment, d'un mot qu'on n'emploie plus non plus, du prolétariat ?
Ah mais moi j'aime beaucoup ce mot.
Moi aussi, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui. Il existe encore, mais il s'est modifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que Marx ait pu dire la vérité du prolétariat au XIXe siècle et qu'il l'aurait dite éternellement. Le prolétariat aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas ce qu'est le prolétaire dans le capital de Marx. Ce n'est pas compliqué. Le prolétaire, il ne possède que sa force de production. Et le bourgeois, il possède les moyens de production. Vous dites, d'une certaine manière, un patron d'une entreprise, c'est un prolétaire. Et puis, un petit boulanger, par exemple, qui a son échoppe, c'est un bourgeois. On voit bien que les catégories ne marchent plus. Le prolétaire, aujourd'hui, ça peut être le gamin que je vois passer sous ma fenêtre avec sa mobilette et qui, à 11h du soir, va livrer des pizzas ou des sushis. Le prolétariat s'est modifié. Ce sont des jeunes filles qui, quand je vais faire mes courses, me font mon compte quand je sors mon panier parce que elles font ça pour pouvoir payer leurs études. Il y a un prolétariat de gens qui sont ubérisés, enfin dans l'ubérisation.
Et j'allais vous dire, vous qui êtes un amoureux des mots, vous pensez que le mot ubérisé a remplacé ce mot de prolétariat ?
Oui, Parce qu'on
ubérise,
oui, on ubérise tout. Regardez le pass sanitaire, on demande à des garçons qui sont, enfin le garçon au sens classique du terme, c'est-à-dire le garçon qui nous sert à boire dans un bistrot, on lui demande de faire le travail de la police. Mmh. Il a un pouvoir de police. On lui donne des informations et il utilise ces informations, il flash, etc. On se dit mais c'est un travail de policier ça. Et si les policiers peuvent le faire, c'est parce qu'ils sont assermentés. Mais là, si n'importe qui peut faire le travail de la police, ça veut dire que la police c'est plus la police quoi. Mmh. Alors aujourd'hui, n'importe qui a une chambre et qui veut la louer peut être un hôtelier. N'importe qui a une voiture et qui veut emmener quelqu'un quelque part peut être chauffeur de taxi. C'est-à-dire, c'est la disparition de la compétence. Un chauffeur de taxi, jadis, il payait une licence et puis il connaissait Paris par cœur et on lui disait je veux aller à tel endroit et vous étiez obligé pour avoir votre examen de dire je tourne ici, je prends à droite et puis je fais ceci. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tenu même de parler correctement le français, vous appuyez sur votre GPS et puis vous obtenez tourner à gauche, tourner à droite et puis voilà. Et là, vous êtes chauffeur de taxi.
C'est juste. Et qu'est-ce qui vous rapproche, vous, en tant que philosophe, de la Terre ? Votre histoire, votre passé, vos origines ?
La fidélité. La Terre, c'est le ciel aussi. C'est-à-dire que quand je regarde le ciel, je vois quelque chose que la Terre m'enseigne également. C'est-à-dire que les nuages, le vent, la couleur de la nuit, la lune, quand elle est montante, descendante, croissante, décroissante, enfin toutes ces choses qu'on peut voir, même assis à son bureau si on est en ville... c'est une façon d'être présent à tout ce qui est vivant dans la ville. On voit des arbres, par exemple, dans un square. Alors, on voit bien, à un moment donné, les feuilles, puis les bourgeons, et puis les fleurs, et puis les fruits, et puis on voit l'automne, et puis ça disparaît, etc. Enfin, c'est la présence du vivant partout où c'est possible et pensable. C'est ça, pour moi, la Terre. C'est pas seulement l'humus. Ça va au-delà. C'est même un parfum, par exemple. Je sais pas si vous avez ressenti ça, mais ces derniers temps, là, on a un parfum d'automne qui correspond à la rentrée scolaire.
Ouais, c'est bizarre. Vrai.
Si vous voyez les enfants qui crient, etc.
Je suis très sensible à ça.
Il y a un parfum d'automne.
Oui, oui. Qui les feuilles d'automne qui tombent, le bruissement même.
C'est ça.
Une odeur particulière.
Voilà.
Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de retrouver justement ce pauvre Martin qui nous raconte tout ça dans la voix de Georges Brassens. On écoute.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.
Inaltérable Georges Brassens, je suppose qu'il n'y a pas que celle-là que vous aimez de Brassens.
Non, je dirais presque tout.
Presque tout.
Oui, donc je disais tout à l'heure, mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, donc on vit dans 17 mètres carrés avec mon frère et mes parents, et on a 17 mètres carrés à l'étage, c'est la chambre, et on dort un cadre dans la même chambre. Donc il n'y a pas de livres, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de cinéma, évidemment, pas d'opéra, pas de théâtre, pas de restaurant, pas de musée, rien de tout ça. Et à l'époque, c'est la radio, et mon père écoutait Europe 1. Et donc, c'est sur Europe 1 que j'ai entendu un jour une chanson de Brassens, et je me suis dit, mais j'adore ce type-là. Enfin, et dans le village, il y avait encore, dans le petit village de Chambois, quelqu'un qui vendait des 33 tours, et avec quelques économies, j'étais allé m'acheter un disque de Brassens, et là, je suis tombé amoureux de tout ce qu'il a écrit. En fait, l'anarchie, je l'ai découvert, ma gauche, c'est une gauche Brassens. L'anarchie, je l'ai découverte par ses chansons.
Oui, c'était l'anarchie des libres penseurs.
C'est ça.
On peut dire.
C'est ça. Ouais.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet.
La musique qui marche pas.
Cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à personne.
Ouais.
En n'écoutant pas le clairon qui sonne.
C'est vrai.
Mais Fernande, quand on a 14 ans.
Oui,
ah bah ça,
merveilleuse. Quand je pense à Fernande, ben voilà. je bande. c'est drôle qu'on je vous parle de ça parce que je me rends compte, l'émission est toute jeune, hein, et pratiquement à chaque émission, je retrouve un Brassens dans le lot. Bon, on va poursuivre et je vous dis à tout de suite.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Michel Onfray, on va écouter votre deuxième choix et j'en suis curieux parce que j'aime bien dire la vérité. C'est une chanson que je ne connais pas. C'est une chanson d'Alain Bachung qui s'appelle Vénus. On l'écoute.
L'indar venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, Vénus. L'indar venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit.
Sur des paroles de Gérard Manset, un arrangement musical d'Armand Méliès. on vient encore d'être surpris par Alain Bashung. Enfin, moi, particulièrement, qui ne connaissais pas cette chanson. Et vous, quelle est votre émotion par rapport à ça? Qui est cette Vénus? dans votre imaginaire, parce que je connais bien Mansès, c'est un ami, c'est un auteur assez étonnant, plus qu'étonnant, parce que vous connaissez La mort d'Orion, par exemple, qu'il a écrit. Pour moi, je le considère comme peut-être le plus bel album des années 70. Mmh. C'est un album que je réécoute plusieurs fois chaque année. Et il y a l'ésotérisme, il y a ce mystère. Et puis je trouve que la mélodie d'Alain Bashung dessus, c'est un peu aussi du Gérard Manset. C'est assez fascinant de voir cette rencontre. Mais pour vous, c'est qui? C'est quand? C'est quoi?
Première à éclairer la nuit, dit-il à un moment donné, c'est donc l'étoile, c'est encore mon père.
D'accord.
C'est-à-dire que sur le pas de la porte, un jour, on sort et il me raconte les étoiles. Et il me dit, le grand chariot, le petit chariot, grand ours, petit ours, etc. Il me dit que la lumière des étoiles est partie il y a des millions d'années, et qu'elle nous arrive seulement maintenant parce qu'elle a mis un temps fou, c'est à l'autre bout de l'univers, et que ce sont des étoiles mortes dont les lumières nous parviennent. Et il me dit, en gros, il y a l'étoile du berger, c'est la première levée, c'est la dernière couchée, elle indique toujours le nord. Et mon père n'était pas du genre à donner des leçons de philosophie, des leçons de morale plutôt. Là, il me donne une leçon de philosophie, mais pas une leçon de morale. Or, c'est une leçon de morale. Il faut être celui qui est le premier éveillé, le dernier couché, et celui qui indique toujours le nord. Et donc, elle me plaît cette chanson pour cette raison, d'abord, parce que c'est toujours mon père. Et puis aussi parce que c'est un poème insondable. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la poésie chinoise.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
C'est insondable.
C'est fou, non?
Oui, complètement. C'est du Jérôme Bosch.
Je veux dire, en fait. Oui, exactement. On interprète un peu ce qu'on veut. Moi, je vous dirais la version que je m'en suis fait dans ma tête en lisant le texte. Moi, je voyais une antichambre mortuaire, pour moi, Vénus, là, telle qu'elle est racontée comme ça. Et sûrement, dans la tête de Gérard, c'est pas ça du tout.
Oui, ça, j'aimerais bien avoir sa version, je l'aurai bientôt.
Je me doute bien. je vais le recevoir un jour assis à votre place.
Oui, j'ai beaucoup aimé ces disques que j'ai aussi beaucoup aimé quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans.
Ouais, vous avez acheté Animal et On est mal, comme moi.
Voilà.
Le premier album, il y avait Je suis Dieu, La toile du maître. Ouais. Et plein de chansons magnifiques.
Et c'est comme une toile de Jérôme Bosch, c'est-à-dire vous pouvez vous trouver devant, enfin les classiques de Bosch, parce qu'il y a des sujets un peu, il y a quelques sujets dont qu'on arrive à comprendre assez facilement, la pierre dans la tête ou ce genre de choses, mais enfin vous ne faites jamais le tour des œuvres de Jérôme Bosch. Vous voyez des petits morceaux, des petits bouts, des assemblages, etc. Puis après vous dites la toile en entier, je ne parviens pas à la saisir. Et il y a ça dans cette poésie là. Et puis il y a cette idée que la poésie, c'est de la plupart du temps en France, c'est assez narcissique, c'est assez égotiste, les gens sont incompréhensibles, c'est imbitable, ils trouvent ça formidable. C'est pas le cas de la poésie chinoise, japonaise ou coréenne par exemple, mais je pense que la poésie a migré du côté de la chanson. Pas toutes les chansons, hein, mais je veux dire, du côté de ce genre de chansons. Tout à l'heure, on va écouter Christophe, je pense que Christophe, Mansé, bien sûr, ou Bashung sont des gens qui ont permis à la poésie d'être populaire. C'est-à-dire que si vous goûtez ça comme à l'aveugle, vous avez un grand vin, vous goûtez ça dans une carafe, et vous voyez où sont les imbéciles, les crétins, les gens qui vous disent n'importe quoi, qui sont perdus, je sais pas quoi, vous dites juste, mais goûte ce qui se passe là, point à la ligne. Et là, si on sort le texte, sans dire que c'est une chanson de Bashung, on a un poème immense.
Je pense.
L'un des très grands poèmes de notre époque. Et en même temps, il y a cette musique qui est aussi énigmatique. Et puis l'aspect, je vous dis, une fois encore, insondable. C'est-à-dire qu'on n'en fait jamais le tour.
C'est pour ça que j'ai demandé à l'écouter juste avant, puisque j'ai fait exprès. J'ai reçu le texte grâce à Maryse, qui m'assiste dans cette émission. Et volontairement, j'aurais pu aller l'écouter, hein. J'aurais pu appeler Gérard Manset, j'aurais pu avoir une explication. Non, je me suis laissé, séduire, envoûté par ce truc-là, et j'ai dit, je vais la découvrir avec vous. Et je me réfère à ce que disait Alain Bashung. Donc, cette chanson est sortie en mars 2008. Il décède un an après, en mars 2009. Il dit, avec cet album, j'ai essayé de m'oublier. Je trouvais que j'avais assez pensé à moi dans mes chansons. Cette fois, j'avais envie de prendre le risque d'être davantage dans la chair.
Oui, alors moi je l'ai vu une fois dans un restaurant, juste à côté de mon éditeur à l'époque, c'était chez Flammarion, et il était là avec son petit chapeau, il était en train de viser avec quelqu'un. Je ne fais jamais ça, mais je suis allé lui dire l'admiration que j'avais pour lui.
Et vous avez vu à quel point il était timide, délicieux, oui, délicat,
d'abord,
timide.
Ça a duré 10 secondes, j'ai pas voulu. Oui, oui. Il était embarrassé de ce que je lui disais. Ah, merci, bon, merci. Ouais, ouais. Puis voilà, puis je suis reparti.
Il était comme ailleurs. Ça, Alain Bachung.
Et ouais. Avec cette voix extraordinaire. Mm. Il y a quand même une voix incroyable.
Ouais, puis un univers musical. Oui. Que, enfin, personnellement, moi, j'ai jamais retrouvé. Je connais pas d'équivalent à Bachung.
Non, il y a pas, bien sûr.
Non. Et moi, je m'étais mis dans la tête, première à éclairer la nuit, je voyais ça, un truc, un voyage un peu interstellaire, enfin bref.
Bah, les cerises qui changent de pas de forme, mais de puissance, quand on les touche, enfin, on a vraiment l'impression d'un genre de paradis, un paradis à la Jérôme Bosch, là, j'y reviens, enfin, c'est ce qu'on appelait les Adamites, c'est-à-dire le temps d'Adam, où c'était ouais. formidable, et où les animaux sont des fleurs, les fleurs sont des hommes, les hommes sont des nuages, les nuages sont des escargots, enfin, il y a toute cette espèce de correspondance entre tout dans la nature, c'est une espèce de grand poème panthéiste aussi.
Bien sûr, et vous m'aidez avec ça à faire une transition que j'espère réussie, parce que le prochain interprète que vous avez choisi, c'était dans les années 70, l'interprète des Paradis Perdus, mm-hmm. c'est Monsieur Christophe. Mm-hmm. Je vous dis à tout de suite, Michel Onfray.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Vous êtes sur Europe 1, on retrouve mon invité Michel Onfray et son troisième extrait de chanson, Christophe et Giusto. On en parle juste après.
Cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito. E io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice. Lei anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene.
Mes enfants, on est à fond dans l'univers christophien. Moi, j'adore. Je ne sais pas si vous avez entendu ça en voiture, chez vous, à la maison, ou je ne sais pas, peut-être sur un bateau, là-bas, lâché sur la mer. Mais bon, c'est fascinant. C'est Daniel Bévillacois, quoi. C'est son univers. Et ce n'était que son 13e album. Il n'a finalement pas tant enregistré que ça. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais vous d'abord, Michel, pourquoi ce choix ? C'est extrêmement original.
Il y a le portrait de mon père, il y a ce que mon père me transmet, et puis là, il y a la nostalgie des
de
expériences.
Ouais.
C'est ça, des expériences sexuelles, amoureuses, enfin, quand on découvre le corps de l'autre,
ouais,
on a 14 ans.
Mais c'est rare d'entendre ça. Enfin, je veux dire, ça a été édulcoré dans les chansons, on ne le dit pas vraiment, mais là, si. Là, c'est fait avec douceur, avec poésie, mais c'est précis.
Oui, et puis il y a cette espèce de trio de voix qui est assez extraordinaire. Mmh.
L'ado, le petit adolescent.
Oui, l'enfant, là,
l'enfant.
Qui a une voix incroyable. On imagine cet enfant bah, qui parle italien comme Christophe. Hein. Et puis, cette voix de femme, je ne vais pas dire abîmée par l'âge, mais enfin, on sent bien qu'elle a de l'âge, cette voix.
Ouais.
Et on imagine une belle vieille femme, ou femme plus âgée. Enfin, on imagine, je ne sais pas qui chante, hein, d'ailleurs, très précisément.
Ben, c'est Anna Mougalès qui fait la voix. Ouais. C'est-à-dire, elle a cette voix un peu comme avait Fanny Ardant autrefois, un peu...
Ouais.
Mystérieuse.
Mmh. On imagine justement une très belle femme mystérieuse qui n'a plus évidemment 14 ans, ça fait longtemps. Et puis cette voix de Christophe qui reste presque une voix d'enfant aussi. C'est quand même assez magique d'avoir pu chanter, de faire une carrière de chanteur avec cette voix si étrange. Et puis c'est aussi un texte insondable. C'est comme avec Bachung, ça reste
insondable.
Ouais,
c'est vrai, avec quand même...
énigmatique.
Mais oui, moins énigmatique, et puis surtout, très sensible, parce que c'est vrai que quand on est ado, on est confronté à l'amour de deux manières, c'est-à-dire on découvre le sentiment, et le sentiment, ça emporte, et on découvre le sexe, et le sexe, ça peut rendre fou aussi. Et les deux se percutent. Oui, le plaisir de l'amour physique, j'ai relevé, que Gainsbourg qualifiait de sans issue. Je trouvais ça tellement juste. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, Michel, qu'il peut y avoir un amour platonique ?
Ben, souvenez-vous, quand on avait 14 ans, c'est-à-dire l'amour quand on a 14 ans, c'est un mélange de tout ça, c'est platonique.
C'est vrai.
C'est idéal et idéalisé, puis ça devient réel et charnel. Et puis, ben justement, c'est la première fois, il n'y en aura pas deux. Et puis, voilà, tout ça se mélange. C'est après que l'amour se constitue. Enfin, du moins, il devrait se constituer. C'est-à-dire que ce n'est pas la recherche de la moitié perdue. Ça, c'est la certitude qu'on ne sera pas heureux. Mais c'est l'art de savoir composer avec une personne dont on a choisi les défauts. Et aimer, c'est choisir les défauts de la personne avec qui on a l'intention de vivre sa vie. Pas ses qualités, c'est trop facile.
Non, et puis c'est vrai que ça reste dans nos mémoires... d'une brutalité, d'une découverte démente.
Alors, il y a tombé amoureux, et puis il y a la relation sexuelle.
Aussi,
la première.
Oui, enfin, je
après
je
cette initiation, on a l'impression d'être un autre...
Exactement.
D'être un homme. Enfin,
d'être un homme ou une femme.
On est passé de l'état de garçon à l'état d'homme. C'est une drôle d'expérience aussi, singulière. Oui.
Vous voulez que je vous fasse la confidence pourquoi je disais tout à l'heure que c'est que son 13e album à Christophe. Mm-hmm. Parce que Christophe, j'ai écrit des chansons avec lui, c'était mon voisin quand j'habitais Paris. Maintenant, je fais un peu Paris de la campagne, je fais un peu les deux. Et il avait un studio chez lui d'enregistrement où il enregistrait, il écrivait. Par exemple, je suppose que cette chanson, elle a été réalisée par lui, avec lui, au piano, aux guitares, beaucoup d'instruments. Et il était vraiment génial, hein, ce garçon. Il savait faire plein de choses, il savait tout faire en musique. Et un jour, je viens, il me fait écouter une chanson sur Enzo Ferrari, un pur chef-d'œuvre, une chanson sublime.
Sur la vitesse, là.
Oui. Oui. Et puis, lui, il aimait, quand il était jeune, oui, les courses automobiles, oui, tout ça. Bon, bref, j'écoute un truc vraiment merveilleux. Et je pars. Et comme on se fréquentait beaucoup, le samedi, je viens en fin d'après-midi parce qu'il travaillait la nuit, il se levait très tard dans l'après-midi. Mais quand même, à un moment, je lui dis, Chris, tu peux me refaire écouter Enzo, c'est trop bien. Il me fait, il me regarde comme ça, il se passe la main dans les cheveux, il me dit, je l'ai pas. Je dis, comment ça, tu l'as pas, tu l'as filé à quelqu'un, elle est partie, là, t'as plus la bande? C'est la chanson que j'ai plus. J'ai dit, t'as plus la chanson? Non, j'ai effacé la basse. Ouais, mais j'ai dit, c'est pas grave, la basse, on va appeler Didier Bâtard, il va la refaire. C'est pas dramatique. Non, parce que quand j'ai effacé la basse, j'ai eu une autre idée, j'ai tout effacé. Mais j'ai écrit, c'était un malade mental, c'était sublime. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, tu l'as tourné, t'as un mixage. Et là, il me regarde, il me fait, tu crois que j'ai oublié de la tourner? C'était Christophe. Et il en a refait une version.
Ah oui.
Mais il était comme ça. Il était en perpétuelle agitation de créatif. Voilà, Christophe.
Oui. J'ai rencontré quelqu'un quand j'ai fait un de mes cours à l'Université Populaire qui était très fan de Christophe, qui allait à tous ses concerts. Et un jour, il me dit, mais il faut que vous vous rencontriez, il va venir bientôt, je lui ai dit, il faut que vous allez vous voir, etc. Il me dit, oui, je lui dis, oui, d'accord, bien sûr, avec un vrai plaisir, mais en même temps, j'ai pas envie de l'embêter, enfin, assister à son concert, oui, mais... Et puis un jour, elle me dit, eh bien, il y a une surprise qui va arriver chez toi, il y a une surprise, voilà. Et quelques jours après la mort de Christophe, j'ai découvert dans ma boîte aux lettres un CD dédicacé de Christophe.
Qui vous avez dédicacé,
oui,
voilà. Dédicacé,
oui. Avec un marqueur noir, et comme ça avait frotté, la dédicace est presque illisible. Et j'ai trouvé ça terrible, cette dédicace qui m'arrivait post-mortem et qui était déjà presque et complètement effacée. C'est un peu lui aussi, on avait vraiment l'impression que sa voix était un effacement.
Oui, sa voix, enfin, il jouait beaucoup avec les machines, avec les sons. Christophe, par exemple, moi, quand j'écrivais les chansons pour lui, je savais très bien que le son valait autant que le sens quand il jugeait la chanson. Bon, cher Michel, on passerait l'après-midi,
oui,
à discuter de ça. On se retrouve tout de suite.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien est sur Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Dis-moi ce que tu chantes. On se retrouve avec mon invité, aussi bavard que moi, j'adore, Michel Onfray. On écoute maintenant l'affaire Louis Trio, Mobilis in Mobile.
Alors elle s'efface. Quand les vérités sont banales, elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent. Sous les flots qui m'entraînent, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. idées sont fatales, qu'elles n'ont plus de bonne étoile. On les voit lever le voile, tout leur est égal. Quand les vérités aux mains sales se construisent des cathédrales, il vaut mieux fuir à la nage, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de ce dernier rendez-vous.
Mobilis in mobile, des paroles de Clint Boris et de Karl Niagara, qu'on pourrait traduire par mobile au milieu de tout ce qui bouge.
Mobile dans le mouvement.
Ouais, mobile,
oui,
dans le mouvement.
Voilà, oui.
Hein, et je sais pas, moi j'ai entendu ça presque au début, les premières phrases. C'est presque un sujet de philo, non? Hein? Ça vous fait sourire?
Oui.
Pourquoi?
Tout est susceptible d'être sujet.
Oui, mais oui, quand les vérités sont trop lasses pour douter du temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place, alors elles s'effacent.
Oui.
Vous avez 2 heures devant vous.
Ah, je peux.
J'en suis sûr.
Je peux le faire.
J'en suis sûr. Et ça me faisait penser aussi à comment une chanson de Béart, le premier qui dit la vérité doit être exécuté.
Oui.
Hein, quand les vérités sont banales.
Oui.
C'est vrai que... ça parle beaucoup de notre société d'aujourd'hui et pas dans ce qu'elle a de mieux, non?
Oui, c'est la devise du capitaine Nemo hein, dans le roman de Jules Verne, Mobilis in mobile.
Mm-hmm.
Mais vous savez, il y a cette phrase d'Héraclite, un philosophe pré-socratique qui précède Socrate, donc il dit on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Il dit, bon voilà, vous avez un fleuve qui passe, vous descendez, le lendemain vous y descendez à nouveau,
oui.
C'est plus la même eau, c'est plus le même fleuve.
Non.
Et cette façon de dire qu'il y a le mouvement et qu'on est soi-même en mouvement dans le mouvement, c'est ça qui m'a d'abord intéressé. Le titre et la formule, c'est la formule du dynamique, de la dynamique et du dynamique et du dynamisme. Et puis après, c'est quand même extrêmement onirique, cette chanson. Elle est extrêmement onirique. Et puis
c'est
il y a une
vrai,
de...
mais parce qu'elle est, en 2 phases. C'est-à-dire après, quand il revient dans les couplets, quand les vérités sont fatales, qu'elles n'ont plus de bonne étoile, on les voit lever le voile, tout leur est égal. Là, on est dans la désillusion quand même. Quand les vérités aux mains sales se construisent des cathédrales, il vaut mieux fuir à la nage, partir en voyage. Et c'est nos médias d'aujourd'hui, ça.
Oui,
ça peut être ça.
Pas seulement les médias.
Non,
le,
mais
le
ça
monde.
Peut être ça. Le monde, monde. Oui, bien
parce
sûr.
Que les médias ne font jamais que rapporter le monde.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais il y a aussi une performance rythmique. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans la chanson, c'est-à-dire qu'elle vous embarque, ça devient une ritournelle, comme aurait dit Deleuze et Guattari, c'est-à-dire qu'on passe la journée avec cette ritournelle dans la tête.
Oui,
et
puis ça, c'est vrai, parce que mobilis, c'est très.
Et tout à l'heure, en venant vous voir, il y a quelqu'un qui est passé avec sa contrebasse, avec une petite roulette comme ça, il poussait ça devant lui, il se trimballait dans la ville, et je me suis dit, mais c'est presque une espèce de clin d'œil comme ça, parce que la contrebasse est quand même très présente dans cette chanson, et je voyais cette contrebasse passer alors que le chanteur est décédé, hélas,
ouais.
Il est disparu trop tôt lui aussi. Mais c'est un beau poème rythmique, un peu comme Bach finalement. C'est une musique qui s'empare de vous et qui modifie vos rythmes. cardiaque, respiratoire. On écoute et d'un seul coup, on est parti sur des cadences de basse, et ces cadences de basse calment le corps, calment le cœur en même temps.
Ouais, et puis elle a quand même elle a cette notion d'espoir ou de fuite. Hein, quand il dit « J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. » Car nul ne résiste au charme doux de ce dernier rendez-vous. Et pour vous, c'est important, la fuite? Vous évadez à travers... Est-ce que les chansons, vous... C'est quelque chose... Parce que je ne vous ai jamais entendu parler de ça. C'est pour ça que j'étais vraiment impatient de vous avoir et de vous recevoir. C'est quoi? C'est une fenêtre ouverte sur un autre imaginaire? C'est...
Non,
comment vous considérez la chanson, la musique? Vous travaillez en musique?
Non.
Non, parce que les paroles dérangent.
Oui. Et puis même la musique classique. C'est-à-dire, on peut pas, c'est pas de
la musique.
Oui, c'est vrai,
on se laisse.
C'est pas possible de transformer Haydn en bruit de fond, quoi, ou en musique de fond. Donc, comme je travaille beaucoup et que je cours après le temps, j'écoute hélas beaucoup moins de musique que je n'en ai écouté. Alors, en fait, la musique, pour moi, c'est en voiture. Donc, entre Caen, où j'habite, et ma maison natale, enfin, dans mon village natal, à Chambois, une heure de route, une heure aller, une heure retour, c'est là que j'écoute un peu à fond ces chansons-là.
On a le même tic, hein, je vous rassure.
Et en boucle. Donc, à fond et en boucle. Là, on se dit, on est tranquille, on ne gêne personne en mettant ça à fond, et c'est plutôt cette pratique-là que j'ai.
C'est vrai, c'est une jolie bulle, l'intérieur d'une voiture, pour écouter de la musique. Je me suis disputé l'autre jour avec un concessionnaire automobile que je ne nommerai pas, d'une grosse marque allemande, où ils ont retiré les CD.
Ah oui,
il
n'y
a plus de CD.
Oui, voilà, oui.
Non, mais c'est n'importe quoi.
C'est avec l'iPhone.
Voilà, avec l'iPhone.
Pas la télé, mais vous pourriez faire voir votre iPhone, là.
Voilà. Non, mais...
Pour ceux qui ne nous voient pas, mon
petit iPhone...
Je peux dire que vous avez un téléphone comme on en faisait il y a 30 ans.
Voilà, il est séduisant.
Ouais.
Ma femme a coutume de me dire, avec ton truc de 1912, là,
c'est ça.
Tu vas impressionner qui? Et vous, Michel, cette fuite, ce serait quoi? C'est la tentation de la Normandie pour des mois, des années? Comme Juppé nous parlait de la tentation de Venise?
Non, j'ai pas ce désir-là, mais en revanche, moi je vis quand même assez loin du monde. J'ai peu d'amis, je reçois peu, je suis assez peu reçu. Mais il y a plein d'occasions pour moi de m'enfuir du monde. Par exemple, Chambois, mon village natal, quand je suis là, effectivement, je suis vraiment très loin du monde. Et quand le soir, je suis dans mon jardin et que je regarde les étoiles ou la Voie lactée, là, j'ai vraiment l'impression d'être parti. Mais je suis pourtant au cœur du monde. C'est le centre du monde, cet endroit-là.
Oui, je comprends. Et vous êtes aussi un adepte de la solitude accompagnée.
Absolument. Ça me va tout à fait. La solitude, le silence,
ça
me va tout à fait.
J'aime cette formule. Ouais. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. Il me dit, mais toi, Didier, tu vis à la campagne, tu vois personne. Je suis resté, je sais pas, 26 ans, 27 ans, à vivre au fin fond des Yvelines. Et j'ai dit, oui, moi, la solitude accompagnée, ça me va très, très bien, mes enfants. C'est vrai. Est-ce qu'on peut partager un moment de solitude accompagnée? Là, c'est un très beau moment de solitude accompagnée avec votre choix suivant. Attendez, je tourne la page bien que je sache qui c'est. C'est Mylène Farmer, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. J'aime énormément Mylène Farmer et la chanson s'appelle Insondable. On va l'écouter immédiatement.
Sont les flots, il la contemple les ombres, il lui dit à demi-mot qu'il aime et qu'il adore, qu'il aime, mais le chaos du corps a ses raisons, a ses remords, et le ciel est sans nuages. Son point d'ancrage, il rentre dans sa maison. Il aime, il adore, il aime encore. Plus rien n'enchante le monde, insondables sont les vents. silence assourdissant. Il aime et il adore. Il aime, mais le chaos du corps a ses raisons, a ses remords.
Mylène Farmer, insondable. Mylène Farmer, moi je vous le dis carrément, je suis un fan absolu depuis le premier disque. Et vous avez vu, ça reste magique même quand on comprend les paroles.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne comprend pas toujours. Il y a des mixages qui font qu'on ne comprend pas toujours. Ça aurait pu s'appeler « Brûlure et souffrance de l'amour perdu ». Ça.
Oui, c'est ça. C'est la chanson de, bah, pour le coup, de l'amour non accompagné.
Mmh.
La solitude, pardon. De la
oui,
solitude
la solitude.
Non accompagnée.
Ou l'extrême solitude, là, pour le
bah,
coup.
C'est. Comment peut-on encore aimer quand la mort est passée par là? Et bah, ça m'intéresse comme question. J'ai connu
je
le
doute.
Deuil, et donc, à un moment
doute.
Donné, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer encore après Et puis il y a mille
après le drame.
Oui, il y a mille façons d'aimer. Comment aime-t-on à nouveau, différemment, autrement voilà.
La philosophie, enfin, être un philosophe, ça aide à porter ça.
Oui, heureusement. Enfin, pour moi, heureusement, parce que si ça ne servait pas à ça, ça ne servira à rien. Donc, oui, on expérimente. Moi, j'ai fait des AVC, un infarctus. Enfin, ça me sert à ce moment-là, la philosophie, plus que jamais. Ça me sert partout, tout le temps, mais dans des moments comme ceux-là, on se dit, bon, bah, il est temps d'y aller, quoi. Si j'ai lu les philosophes stoïciens qui font toute une théorie de la douleur, eh bien voilà, la douleur, elle est là, elle est présente, elle est physique, il va falloir s'en occuper. Donc, j'ai dit beaucoup à l'époque que, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. Mmh. Et quand le deuil nous fait, que nous fait-il, comment nous fait-il sur le terrain de l'amour encore ?
Bien sûr, parce qu'il faut que le cœur reparte aussi.
Mmh.
Et est-ce que la philosophie peut apporter cette sagesse quelquefois ?
Pour moi, oui.
Oui ?
Pour moi, oui. J'entends des philosophes aujourd'hui qui disent que non, ça ne sert à rien, qu'ils ont eu tel ou tel type d'expérience et que la philo leur a été d'aucune utilité. Peut-être que ce sont des bons professeurs de philosophie, mais peut-être pas des philosophes.
Mmh.
Et on n'a pas besoin d'être professeur de philosophie pour être philosophe, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent des situations comme celle-ci. Moi, j'ai vécu pendant des années donc avec Marie-Claude dans les hôpitaux, dans les centres anticancéreux, etc. J'ai vu des héros au quotidien. Vraiment des gens qui portaient la mort sur leur visage et qui étaient d'une grande élégance.
Et qui ont leur propre
morale.
Philosophie, souvent, sans même y penser. C'est-à-dire, c'est.
Qui retrouvent les attendus de la philosophie stoïcienne.
Ouais,
ils n'ont pas forcément.
Le naturel,
lu
voilà.
Sénèque, mais qui
non,
sont
non.
des stoïciens. Parce qu'effectivement, ils ont composé avec la mort qui les habite. Et on sait très bien que, bon, vous êtes vivant et vous avez la mort en vous, puis un jour la mort vous embarque, et cette mort-là, elle redevient vivante dans celui qui reste. Il y a toujours une part de l'autre qui est mort, qui nous habite, et que fait-on de cette part de la mort qui est en nous ? Notre corps est aussi le tombeau de l'autre.
Eh bien, moi, je crois qu'on a bien fait, en plus, enfin, vous avez bien fait, d'avoir choisi Mylène Farmer, qui, dans ses chansons, et c'est ça qui est magique, a souvent eu le courage d'évoquer ça, la mort, l'absence, la perte. C'est pour ça que je l'adore. Hein. Et au milieu d'un son moderne, de paillettes, de spectacles hallucinants. Et c'est pour ça aussi que ces spectacles ont quelque chose de presque religieux à cette jeune femme, Mylène Farmer.
Non, puis elle mène une vie poétique.
Je trouve.
C'est-à-dire que c'est pas... le peu que j'en sache, on s'est un peu vu, on s'est parlé, on a fait un livre ensemble, elle dessine magnifiquement, j'ai fait un livre pour enfants, Et elle est vraiment habitée par ce monde poétique qu'elle chante. Il n'y a pas de, coupure entre ce qu'elle est, ce qu'elle chante, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit. Et elle vit en artiste elle-même.
J'allais vous le dire, c'est la marque des grands artistes de vivre comme ça.
Oui, je trouve aussi.
Je ne sais pas si vous êtes un grand artiste, ou un grand philosophe, ou un grand écrivain, mais j'ai été ravi cet après-midi de converser avec l'homme que vous êtes.
Merci beaucoup.
Franchement.
Merci beaucoup.
Franchement. Merci d'être venu,
c'est
Michel Onfray.
Moi, je vous en prie.
On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité dans Dis-moi ce que tu chantes. En attendant, on retrouve mes préférés, Mathieu Noël et Stéphane Bern.
Salut Didier, à dimanche prochain.
Didier Barbelivien sur Europe 1.